Bonjour. Les vacances sont finies. Vous êtes tous prêts à redémarrer. Alors ce matin, je suis chargé de commencer l'étude de la lettre aux Philippiens. Ça va durer quelques semaines, je pense. Et ce matin, on va voir juste l'introduction de cette lettre. Mais avant de parler de cette lettre que Paul a écrite donc aux chrétiens de la ville de Philippe, on va voir un peu ce qu'était cette ville. Philippe, c'était une ville grecque, actuellement Philippoi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le grec, c'est pas mon truc. C'est une ville qui est assez proche de la Turquie. Je pense que si j'appuie là-dessus... Ça veut pas. Donc c'est une ville qui est proche de la Turquie et de la Bulgarie. C'est en Macédoine orientale. Et jadis, c'était le pays de Thrace. Un pays qui comprenait la Bulgarie et la partie européenne de la Turquie. Et c'est une ville qui était située sur un promontoire qui dominait une plaine marécageuse, une plaine entourée de montagnes et sillonnée de nombreux ruisseaux. Ça devrait. D'où le premier nom donné à la localité, Crénides, qui veut dire petite fontaine. Cette ville n'était pas sur la mer. Le port, c'est Néapolis, qui est un peu plus bas, une douzaine de kilomètres, sur la mer Égée. Et elle avait été fondée pour exploiter des mines d'or. C'était la ruée vers l'or. Alors, vers la moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, le roi Philippe II, ça vous dit, le père d'Alexandre le Grand. Il avait annexé la Macédoine, rebâti et fortifié la ville pour en faire un rempart contre la Thrace et en faire aussi un centre d'exploitation minière. Et c'est pour ça qu'elle a pris, depuis lors, le nom de Philippe. Alors, à côté de cette ville, d'abord, elle est passée sous domination romaine, en 168 avant Jésus-Christ, et aux abords de cette ville, il y a eu une grande bataille. Les légions d'Octave et d'Antoine triomphèrent de celles des derniers défenseurs de la République, Brutus et Cassius, c'était en 42 avant Jésus-Christ. Et ce fut la cause d'une splendeur nouvelle pour la ville, car plusieurs vétérans des cohortes prétoniennes s'y établirent. Et quelques années plus tard, après la bataille qu'Octave livra à Marc-Antoine et Cléopâtre, c'était en 31 avant Jésus-Christ, Octave, devenu empereur, l'empereur César Auguste, y cantonna les débris du parti d'Antoine et fit de Philippe une colonie romaine considérable. Alors, chaque colonie romaine était une petite Rome en miniature. Elle ne dépendait pas du gouverneur de la province. Elle était administrée par des magistrats élus par le Sénat de la colonie elle-même. C'était la démocratie. Philippe jouissait en outre des droits des cités romaines et italiennes, qui lui conférait plusieurs privilèges, en particulier il était exempt d'impôt. Exempt d'impôt. Le latin y était la langue commune. C'était donc une ville d'anciens légionnaires, qui étaient des gens rudes et fiers, et de femmes libres et indépendantes qui participaient ouvertement aux débats politiques, influencer les élections annuelles des stratèges et provoquer des changements de gouvernement. C'est un peu loin de l'image qu'on se fait de la femme de l'Antiquité. Quant aux Juifs, ils étaient très peu nombreux à Philippe. Il ne semble pas qu'ils possédaient de synagogue. Et le jour du sabbat, ils se réunissaient hors des portes de la ville, sur le bord du fleuve. Ils s'y réunissaient pour faire leurs ablutions rituelles et leurs prières. Peut-être y avait-il un oratoire à ciel ouvert. Alors maintenant qu'on connaît un tout petit peu la ville, qu'est-ce que nous en dit la Bible ? Alors ce fut pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul que l'Évangile pénétra pour la première fois en Europe. L'apôtre, obéissant à la vision du Macédonien qui l'appelait au secours et dont on lit le récit dans le livre des Actes. Voilà. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière : passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Or, Philippe est une ville européenne, mais Paul, je ne pense pas qu'il avait le sentiment d'aborder en Europe, car la distinction entre l'Asie et l'Europe n'existait pas encore. L'Asie, la Macédoine, l'Achaïe n'étaient que des provinces d'un seul et immense empire. Or, pour passer de la province d'Asie à celle de Macédoine, il s'embarque à Troas, accompagné de Silas, de Timothée et de Luc. Luc n'est pas nommé explicitement, mais c'est lui qui a écrit le récit des Actes, et il s'exprime à la première personne du pluriel. Or, débarqués à Néapolis, les missionnaires prennent la voie romaine et gagnent Philippe, une douzaine de kilomètres, qui, d'après le livre des Actes, est une ville importante de cette partie de Macédoine. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Théatyre, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Or Lydie fut la première chrétienne européenne que la Bible nomme. Européenne, elle venait de Thyatire. Thyatire, c'est une ville turque, située quand même à 600 km de Philippe. C'était pas tout à côté. Et c'était assez loin de la mer. Et certainement, cette riche marchande venait faire ses achats de pourpre. Le pourpre, une teinture. Une teinture à base d'un coquillage de Méditerranée, le murex. Et c'est une teinture qui était fort recherchée et chère. Or, Lydie était originaire de Thyatire. Thyatire, ça vous rappelle une des églises de l'Apocalypse. Peut-être on peut penser qu'elle était à l'origine de cette église. C'est pas impossible. Parce que ces femmes converties au christianisme ont exercé une grande influence dans l'église naissante. Paul trouvera parmi elles de fidèles collaboratrices. Et puis Philippe, c'est aussi la ville où Paul et Silas ont été emprisonnés, flagellés, et puis délivrés. Vous vous souvenez, délivrés par un tremblement de terre alors qu'ils chantaient dans leur prison. Et c'est à cette occasion que le geôlier, donc celui qui était censé les garder, se convertit avec sa famille. Et l'apôtre Paul ne retourna à Philippe que quelques années plus tard, vers la fin de son séjour à Éphèse. Et sa dernière visite aux Philippiens, ces chers Philippiens qu'il appelait sa joie et sa couronne, eut lieu quelques mois après ou quelques semaines avant son arrestation, puisqu'il y passa la semaine de Pâques avec eux. Et puis si sa première captivité ou sa captivité romaine aboutit à une libération, et on peut le penser, la supposition qu'il ait encore une fois visité la Macédoine et Philippe n'est pas invraisemblable, puisqu'il dit à Timothée, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. » Alors maintenant qu'est posé le contexte historique et géographique, passons à cette lettre que Paul a écrite. Je ne vous ai pas fait voir Thyatire. Vous voyez, c'est quand même pas à côté. Or, cette lettre a été écrite vers l'an 600, quand Paul était en captivité à Rome, et après qu'il ait reçu un soutien financier de la part de l'église de Philippe. On a appelé ce livre le livre de l'expérience chrétienne. Cette expérience qui se résume en trois mots. Christ me suffit. Au chapitre 1er, il est ma vie. Au chapitre 2, il est mon modèle. Au chapitre 3, il est mon but. Et au chapitre 4, il est ma force et ma joie. Et dans cette lettre, il n'y a pas de reproche à l'Église, comme il y en a dans d'autres lettres. Il n'y a pas non plus d'exposé doctrinal. Cette épître nous montre le croyant courant vers le but, et cette course est envisagée comme accomplie dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Car ce qui caractérise ici le chrétien, c'est qu'il marche absolument dans cette puissance de l'Esprit. Puis cette lettre est certainement la plus personnelle et la plus affectueuse de Paul. Elle révèle la place spéciale qu'avait cette assemblée dans son cœur. C'est d'ailleurs la seule église, à notre connaissance, à l'avoir soutenue financièrement, ou dont l'apôtre avait accepté l'aide, parce que c'était contraire à son principe de pourvoir à ses besoins par son travail. Vous vous souvenez ce qu'il disait aux Thessaloniciens, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile. Alors maintenant, on va voir les premiers versets du premier chapitre, versets 1 à 11. Les lettres à cette époque commencez toujours par des salutations. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous. parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Or, du fond de sa prison, Paul écrit à ses chers Philippiens, donc on connaît au moins Lydie, on ne sait pas si elle était toujours à Philippe, et le geôlier et sa famille. Et bien que Paul soit seul l'auteur de cette lettre, il nomme avec lui son bien-aimé Timothée, probablement par un sentiment de délicate affection pour ce dernier. Peut-être aussi pour lui préparer une belle et bonne réception de la part des Philippiens où il comptait l'envoyer bientôt. Et puis, désirant se placer sur le même pied d'égalité et de fraternité avec celui qui avait été son collaborateur dans la fondation de cette église-là, Paul ne se donne pas, comme à l'ordinaire, dans la majorité de ses épîtres, son titre d'apôtre, mais partage avec Timothée le beau nom de serviteur ou esclave de Jésus-Christ. Paul ne parle ici ni en apôtre, ni en docteur, il n'est que l'esclave de Jésus-Christ. Et on ne doit pas considérer l'expérience qu'il est amené à relater comme quelque chose d'apostolique, et donc hors de notre portée. Au contraire, c'est l'expérience d'un serviteur. Et nous le sommes tous. Il s'adresse à ceux qu'on pouvait qualifier à Philippe de saints dans le Christ Jésus. Étant en Christ, ils étaient mis à part pour Dieu. Et ils avaient des surveillants, le sens du mot évêque, et des serviteurs, les diacres, au milieu d'eux. Mais ceux-ci, vous remarquerez, ne sont pas mentionnés en premier. Les hommes qui avaient ces charges dans l'assemblée locale avaient une place d'honneur et d'importance, mais ils ne dominaient pas sur l'héritage de Dieu. Ils ne dominaient pas, comme le recommande Pierre aux anciens, dans sa première épître, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Alors, il est difficile de dire pourquoi Paul, contrairement à son habitude, décrit l'Église en mentionnant ses anciens et ses diacres, en mentionnant sa composition. Mais s'il est difficile de dire pourquoi, en tout cas, ça nous montre que l'Église, dès les temps apostoliques, était organisée ainsi. Et c'était une Église fondée par l'apôtre lui-même. Puis dans sa salutation assez caractéristique quand même de l'apôtre Paul, il souhaite que la grâce et la paix leur soient données. Et cette grâce, ce n'est pas celle qui est accordée au pécheur qui se repent. C'est plutôt la grâce qu'il faut rechercher auprès du Père pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. Alors, immédiatement après les salutations du début, du verset 3 au verset 7, Paul rappelle l'heureux souvenir qu'il avait des saints de Philippe. Il rend grâce à Dieu chaque fois qu'il pense aux Philippiens. Ceux-ci qui étaient ses enfants spirituels en quelque sorte et qui, à bien des égards, se sont montrés exemplaires. Et la raison particulière de sa reconnaissance, c'était la part que prenait à l'Évangile, qu'il prenait à l'Évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Les Philippiens avaient eu beaucoup à cœur l'apôtre Paul. Il s'était tenu à ses côtés comme partenaire. Et tout cela était une preuve manifeste du travail de Dieu en eux. Dieu avait commencé une bonne œuvre par son Saint-Esprit. Ces chrétiens étaient de toute évidence caractérisés par un grand amour de l'Évangile et aussi de façon pratique. Et puis non seulement un grand amour de l'Évangile, mais aussi un amour pour Paul, qui en était l'ambassadeur. Et cela a été rendu évident aussi par la solidarité dont il faisait preuve vis-à-vis de Paul. Et cette solidarité était une preuve du travail intérieur de Dieu, plus que l'aurait été une grande érudition en matière de doctrine. Et ce travail de Dieu, ce travail qu'il avait commencé en eux, il l'achèverait et serait finalisé au jour de Christ. C'est le but de Dieu pour chacun de ses enfants. Et l'Église est là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est aussi le rôle de l'Église pour nous, hein. Et puis Paul estime justifier sa reconnaissance envers les Philippiens pour leur loyauté et leur soutien envers lui. Soutien financier, mais pas seulement. Soutien par leur prière pour tout le ministère de l'apôtre. Puis ensuite, les quelques versets qui suivent, du verset 8 au verset 11, Paul intercède pour les Philippiens. Déjà, le verset 8 nous assure combien Paul leur rendait toute leur affection. « Je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. » On voit ici l'affection particulière, cet attachement de Paul pour les chrétiens de Philippe. Et je ne pense pas qu'on retrouve une telle expression de cette affection profonde pour une autre Église. Puis ensuite, la reconnaissance fait place à la requête. Et vous remarquerez que Paul ne demande pas pour eux la richesse, ou le confort, ou la délivrance dans l'épreuve. Il prie pour que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. La caractéristique de la vie chrétienne, c'est bien d'aimer Dieu. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais l'amour n'est pas fait d'émotions. Pour un service efficace, nous devons aussi utiliser notre intelligence, notre discernement. Autrement, nous pourrions être inutiles. Et cet amour ainsi éclairé permet de discerner les choses les meilleures. Dans toutes les circonstances de la vie, il y a de bonnes choses et d'autres qui sont meilleures. Et le bien est souvent l'ennemi du meilleur. Il y a beaucoup de choses chez les Philippiens qui étaient pour Paul un sujet de joie. Mais le désir de Paul est résumé dans l'expression que leur amour augmente de plus en plus. Alors autant l'œuvre de Dieu pour nous a été accomplie une fois pour toutes en Jésus-Christ, mais l'œuvre de Dieu en nous, par son Saint-Esprit, est quelque chose de progressif. Que nous ayons à abonder de plus en plus en amour est évidemment le principal, car ce faisant, notre connaissance et notre discernement augmentent. Nous discernerons toujours plus ce qui est excellent et nous y trouverons notre joie. Nous nous garderons de tout ce qui peut le ternir, cet excellent. Et par conséquent, nous serons remplis de ses fruits produits par la justice. Paul les veut et nous veut purs et irréprochables. Tout un programme. Être irréprochable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être sans péché? Je ne sais pas si on va y arriver. Mais en fait, on est irréprochable lorsque nos péchés sont confessés et pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et enfin, Paul prie pour que les chrétiens, et pas seulement ceux de Philippe, soient remplis du fruit de justice qui est en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Du fruit de justice, du fruit que la justice produit. Toutes les vertus qui rendent une vie juste, toutes ces vertus, leur source est en Christ, et seulement en Christ. Et leur but, c'est seulement la gloire de Dieu. Nous pouvons porter ces fruits si, comme les sarments, nous sommes attachés fermement à la vigne. Je lui suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui est de nature divine. Et nous avons à croître dans cette nature comme le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. Et nous avons à croître jusqu'au terme de notre séjour ici-bas. Et alors, le fruit sera manifeste au jour de Jésus-Christ. Alors pour conclure, je vais vous laisser juste les derniers versets. Que notre intelligence, que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen.